Sur le trottoir, alors qu'elles vont se croiser, Claire voit parfaitement que la jeune femme s'écarte. « Charmante voisine », se dit Claire. Arrivée au quatrième, elle couvre ses mains de gants en caoutchouc fin et ouvre la porte de l'appartement de Smensk. Elle se dit qu'il va falloir tout désinfecter et jeter les draps chiffonnés et pas très nets du lit qui la dégoûte. Et le linge sale entassé sous le lavabo de la salle de bain qui sent le cadavre mouillé, et se débarrasser de ses coupes et de ses médailles exposées partout dans le living, et, trophée parmi les trophées, ses photos encadrées où l'on voit son père exhibant un corps boursouflé de muscles, huilé comme une machine à biel. Claire sent son cœur qui remonte à la gorge et se dit « Putain, je suis en plein épisode de striptease ». Il va falloir ouvrir la fenêtre aussi parce que ça pue vraiment la mort ici. Mais enfin, se dit Claire, ça pue la mort un peu partout pour le moment. On peut l'attraper, la mort, rien qu'en respirant l'air. Alors, un peu plus ou un peu moins. C'est vrai que cette pauvre petite Belgique porte à bout de bras ses plus de 4000 décès. Aura-t-elle la force d'en porter encore plus? Elle qui voit ses vieux mourir sans personne pour leur tenir ce qui reste de leurs mains. Sans personne pour leur dire « Au revoir, c'était bien. Vas-y, papa. » Une situation qui nous rappelle au passage, car la vie est là pour nous distraire, notre condition d'homme, c'est-à-dire de futur cher pourrissante vouée à la plus extrême des solitudes. Merci à nos aînés pour ce pense-bête collé sur le front de notre existence. En avançant pour aller ouvrir la fenêtre, Claire aperçoit une lettre sur le parquet du vestibule. Elle reconnaît l'enveloppe où on peut lire son nom et son adresse, une missive qu'elle s'était empressée de renvoyer à l'expéditeur. Elle pense à l'étrange parcours de ce courrier qui a fait des va-et-vient jusqu'à finir par la retrouver ici, chez celui qui l'a écrit. Plus personne n'est là pour la voir la lire, ni son père, ni Michel, ce type avec qui elle a vécu 2 ans et qui ne lui a pas manqué une demi-seconde depuis qu'elle l'a larguée, comme quoi 2 ans, on peut en mettre du temps à se faire du tort. Alors, comme plus personne n'est là pour la voir lire, elle lit. Elle ouvre l'enveloppe. Elle découvre une feuille de papier quadrillé sur laquelle court une écriture enfantine et malhabile. Elle voit tout de suite que la lettre est bourrée de fautes d'orthographe et de tournures apprises dans les clubs de culturisme. Elle ne voudrait pas faire sa maligne, car elle est le français, ça fait 4, mais bon, on voit bien en lisant sa lettre que Smensk était champion de bodybuilding, pas champion de Scrabble. Et elle lit. « Ma très chère fille, je sais que tu ne voudrais pas me parler, mais moi oui. Je sais qu'on m'a dit que tu ne voudrais jamais me voir. Mais je t'écris cette lettre pour dire que toute ma vie, j'ai eu cette souffrance. Une souffrance qu'un père qui a abandonné son enfant n'est pas un vrai homme. Mais à 14 ans, penses-tu qu'on est un homme? Je ne pense pas, mais tu me diras. C'est pas une raison pour partir. J'ai beaucoup fait pour montrer que j'étais le plus fort. Mais c'était toujours pour cacher que j'étais le plus faible. Je sens que les gens parlent beaucoup. Les gens, c'est des pipelettes, et la vie, des fois, c'est mieux de ne pas les écouter. Alors, je voudrais te demander pardon. Je ne sais pas si tu veux, mais moi, j'ai besoin. Je sais que le temps ne reviendra pas et que ce qui est passé est derrière, mais comme je suis malade, je le sens, je te demande de me pardonner pour le mal que j'ai fait, mais aussi que je me suis fait. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, j'ai toujours répondu « Oui, c'est ça, à d'autres. » Alors, pour te dire que, comme je vais mourir parce que j'ai le virus, je te donne mon argent. Si tu veux bien accepter, un moindre centime, ça m'aidera à mieux partir. Je ne t'ai jamais connu parce que tu n'as jamais voulu, mais tu dois savoir que tu as toujours été le plus beau de mes secrets. Mais je sais que tu ne voulais pas être un secret. Pardonne-moi, je te supplie, ton père qui t'aime et qui meurt en te disant « porte-toi bien ». Mercredi 15 avril, Claire a passé sa première nuit dans l'appartement de son père. Elle a dormi tout habillée sur le canapé parce que le lit, elle n'a pas pu. Elle se dit que c'est aujourd'hui qu'au gouvernement, champion du masque FFP2, vont décider du prolongement du confinement. Mais elle sait qu'il y a trop de vieux qui meurent. Et les vieux qui meurent, ça sent pas bon. En descendant dans les escaliers, elle croise la jeune fille d'hier, celle de la rue. Elle est sur le palier avec un garçon, sans doute son compagnon. « Bonjour, » dit Claire. « Bonjour, » répond Antoine. « Vous êtes la nouvelle locataire du 4e ?» « Oui, » rétorque Claire, « c'est l'appartement de mon père, il me l'a dégué. »« Vous l'avez connu, je suppose ?»« Pas vraiment, » dit Antoine. « Excusez-moi, mais est-ce que vous savez comment il est mort ?» Et Léa de répondre, « Si vous voulez, on vous racontera. Ça me fera du bien. »
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
Thank you.
Ça me fera du bien. D'où cette phrase est-elle sortie ? En quoi raconter ce qui s'est passé dans l'escalier à cette femme qu'elle ne connaît pas lui ferait du bien à elle ? Léa tourne ses questions dans sa tête, debout devant la fenêtre qui donne sur l'arrière de son appartement. Deux immeubles lui font face, des dizaines et des dizaines de fenêtres donnant sur des dizaines et des dizaines de petits balcons, rangés côte à côte, bien étanches. Une autre image se superpose à celle-là. Une photo qu'Antoine lui a mise sous le nez avec une espèce d'arrogance qui ne lui a pas plu. « T'as vu où on en est arrivé ?» Le cliché est pris de très haut depuis un hélicoptère, dans une plaine, à deux pas d'une usine désaffectée. On y voit des petits hommes habillés et masqués de blanc s'affairer autour d'un grand trou creusé par une grue jaune. De loin, on dirait une scène jouée par des Playmobil. Une scène de crime, comme dans un film. Dans le grand trou sont alignés des cercueils bon marché. En regardant cette image, on pourrait croire qu'il s'agit d'une découverte macabre faite par la police qui va se dépêcher de déterrer ces dizaines de boîtes. Mais en réalité, c'est le contraire. Le grand trou est une fosse commune. Les petits hommes blancs recouvrent les cercueils de terre noire. À l'intérieur sont couchés des morts du Covid-19 que personne n'a réclamé. La scène se passe il y a quelques jours sur Hart Island, une petite île abandonnée au large du Bronx, au nord de Manhattan. Quand elle a compris de quoi il s'agissait, Léa a ressenti une étrange nausée. Pas de celle qui vous pousse à vous précipiter aux toilettes pour vider vos entrailles, non. Plutôt de celle qui vous empêche de dormir. Des centaines de gens, des milliers peut-être enterrés là, à la va-vite, comme on jette une poubelle dans un camion benne. Des gens qui ont aimé, pleuré, qui ont chanté des chansons, lu des livres, vu plusieurs fois le même film parce qu'il n'y avait une scène qui les faisait rire aux éclats. Des gens qui avaient une recette familiale de spaghettis à la carbonara ou de tarte au citron, qui avaient des photos dans leur portefeuille. Des gens qui aujourd'hui se retrouvent alignés dans un trou que des hommes blancs vont reboucher avec leur belle grue jaune. Des gens dont l'existence a été brutalement interrompue et qui n'auront jamais leur nom écrit nulle part. Ça me fera du bien. La gorge de Léa se serre jusqu'à lui faire mal. Sa vue se brouille, mais elle passe la manche de son pull sur ses yeux avant qu'une larme ne coule. La bête aussi avait un nom. Pourtant, tout le monde l'appelait la bête. Il n'est redevenu Derek Smensk que lorsqu'il est sorti de son appartement pour tomber dans les escaliers, déjà à moitié mort. Et c'est ce moment qu'elle a choisi pour la nausée encore. Le soir, pendant le souper, Léa n'a pas ouvert la bouche et quasiment rien mangé. Elle s'est couchée tôt, elle a rêvé de gamin donnant des coups de pied dans des Playmobil et des petites grues en plastique. Jeudi matin, 16 avril, le pays s'est levé avec les nouvelles mesures annoncées la veille par le Conseil national de sécurité. Prolongation du confinement jusqu'au 3 mai, pas de festival avant le 31 août, réouverture des jardineries et des magasins de bricolage. Léa se dit que le monde, quoi qu'il arrive, se divise toujours en deux. Le confinement s'adoucit pour ceux qui ont un jardin ou un appartement à eux. Ils vont pouvoir jardiner, bricoler. Pour les autres, rien ne change. Toujours, le monde se divise en deux. Mais le savent-ils, ceux qui prennent ces décisions ? Personne ne peut dire quand la vie normale pourra reprendre, a dit la Première ministre. La vie normale ? Ce n'est pas qu'elle s'en fout, mais Léa les a écoutées, ces mesures, mais d'une oreille distraite. Ce matin, il y a autre chose qui occupe son esprit, quelque chose de plus important. Pas pour tout le monde, non. Important pour elle. Elle sort de la douche, croise Antoine qui va prendre la sienne. « Je vais faire un saut chez les voisins du dessus, enfin chez la fille de Smensk. »« Ah bon, pourquoi faire ? Rien comme ça. » Avant de frapper à la porte, elle a pris une grande respiration. Après quelques secondes, Claire apparaît, elle a les cheveux mouillés, elle aussi. « Bonjour, je peux faire quelque chose pour vous ?» lui demande Claire. « Je crois bien, oui. »« Entrez, je viens de faire du café. »
La première, 11h30, 13h, entrez sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, vendredi 17 avril, le 31e jour. Il est 6h au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Léa et Antoine viennent d'apprendre la nouvelle à la radio. Le chanteur Christophe est mort à 74 ans. C'est le mec qui chantait Aline, c'est ça ? Demande Léa. Antoine se demande s'il a vraiment envie de lui répondre. Alors il se tait, allongé sur le dos, il fixe le plafond et se dit que toutes les morts sont importantes. Que chaque fois, il s'agit d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, d'un fils. Que chaque fois, c'est une vie entière qui s'en va, comme ça, en un claquement de doigts. Et pourtant, il sait que c'est de Christophe dont les médias vont parler aujourd'hui, que c'est lui qui fera grésiller les réseaux, que tout le monde ira de sa chanson préférée, et ça l'énerve, ça, les tristesses collectives, cette manie qu'ont les êtres humains d'aimer soudainement les morts. Oui, toutes les morts sont importantes et pourtant aujourd'hui, on ne parlera que de lui. Parce que lorsqu'un artiste meurt, c'est comme si soudainement un paysage disparaissait. Une forêt ou un bord de mer où nous allions nous promener main dans la main, soudainement, il n'y a plus rien. Bien sûr, il reste des photos, mais on ne s'y promènera plus. C'est fini. Et le plus terrible, c'est que c'est pour toujours. Antoine, il se dit que c'est ça le problème avec la mort. C'est que c'est pour toujours. Alors que l'amour... Il regarde Léa et l'imagine en veste de soie rose. Il ne lui répond pas, il lui dit des mots avec les yeux, vous savez, de ceux qui rendent les gens heureux. Puis sous les draps, il glisse sa main vers elle. Nous refermons la porte parce qu'il est encore tôt. Des enfants écoutent peut-être. Il est 9h, au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Au troisième, Maria a laissé dormir sa fille. Elle profite de l'heure tranquille que lui offre le matin. Elle est en pyjama et allume la télé. La nouvelle tombe, Christophe est mort. Et là, tout lui remonte. La rencontre, et puis les premières vacances à Rome, son doux visage, leur promenade en Vespa quand ils cherchaient l'aventure jusqu'au petit matin, cette façon qu'elle avait de se serrer contre le revers de son smoking blanc cassé, et puis la petite était arrivée. Et puis il a plu. C'est que la vie, toujours, ça se joue sur une paire de rois. Elle n'avait juste pas les bons cette fois-là. La petite vient de se lever. Elle dit « Mais pourquoi tu pleures, maman ?» En s'essuyant les yeux, Maria répond « Pour rien, Elsa. Pour rien. » Elle se dit que c'est peut-être le plus beau prénom du monde, Elsa. Et puis aussi que les chansons ont ceci de sublime, c'est qu'elles s'agrègent à nos souvenirs. Il est 10h maintenant au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Au quatrième, Claire a dormi sa première nuit dans l'appartement de son père. Enfin, dormi, c'est un grand mot. Elle vient elle aussi d'apprendre la mort du chanteur. Alors elle fouille dans les disques vinyles de son père, c'est inconnu. On ne sait jamais. Il y a les Zeppelin, les Who, les Stones, Black Sabbath, Pink Floyd, les CDC, les Clash. Elle est estomaquée. Elle n'a pas connu son père et pourtant, elle écoute exactement la même musique que lui. Elle se dit, elle aussi, que les chansons ont ceci de merveilleux. Elles se transmettent par le sang des gens que l'on a trop peu connus. Il est enfin midi au clocher de l'église. Les nouveaux chiffres viennent de tomber. 313 nouveaux décès en Belgique dans les 24 dernières heures. Toutes les morts sont importantes. Décidément, il avait raison, le chanteur. Le vent d'hiver souffle en avril. Antoine, lui, regarde par la fenêtre. Il pense à ce disque que Christophe a sorti en 2008, intitulé « Aimer ce que nous sommes ». Dans l'immeuble, chacun vaque à ses occupations de confiné, en silence, évidemment, aujourd'hui, parler leur semble ridicule. Au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, dans le bloc voisin, au-delà du quartier, ou là, maintenant, derrière chaque poste de radio, nous savons que désormais, nous pouvons jardiner, oui. Nous pouvons bricoler, oui. Mais à côté, les amis, n'oublions pas, alors que pour une fois le temps nous est donné, d'apprendre à aimer un peu plus chaque jour ce que nous sommes. Ce soir, le jour se couchera encore pour la plupart d'entre nous et le crépuscule sera grandiose. Il est maintenant midi, 11 minutes, 34 secondes au clocher de l'église. Aujourd'hui, malheureusement, personne ne va sortir de la mairie.
La première, 11h30, 13h. Entrez sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 34e jour. Dimanche 19 avril, Antoine se réveille avec cette question. Qui répare les ambulances ? Léa pleure depuis 3 jours. Ça a commencé vendredi matin quand elle est revenue de chez Claire. Au quatrième, en redescendant l'escalier, elle a pensé... Ça n'est déjà plus chez la bête. Il n'a cessé de respirer que depuis quelques jours et son existence s'efface. Déjà. Les larmes étaient montées et elle n'avait rien fait pour les retenir. Antoine avait demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle avait répondu « Je ne sais pas. » Souvent, les larmes, ça ne se justifie pas. Il l'avait prise dans ses bras et avait encore demandé « Je peux faire quelque chose ?»« Serre-moi. » Et il l'avait serrée. Et son corps à elle s'était mis à trembler sous une avalanche de sanglots. Antoine avait ressenti quelque chose qui l'avait mis plusieurs heures à s'avouer. Les pleurs de Léa lui faisaient du bien. Parce qu'il avait besoin qu'on ait besoin de lui. Et parce qu'il ne voulait pas être le seul à se sentir fragile dans cet appartement. Mais qui répare les ambulances ? Antoine supporte de moins en moins l'inactivité. Il a ignoré les appels de son patron pendant des jours et maintenant, il n'ose plus le rappeler. Et depuis le 10 avril, les appels qu'il ignore, ce sont ceux de son propriétaire. Il n'a pas payé son loyer. Il lui reste un peu plus de 1000 euros qu'il avait réussi à mettre de côté. Il ne va pas tenir longtemps avec ça. Va falloir trouver une solution. Mais là, tout de suite, il voudrait réparer des ambulances. Et consoler Léa. Pour ça, il a une idée. Chez lui, il a un coffret DVD avec l'intégrale des Monty Pythons. Aucune déprime ne résiste aux Monty Pythons. Il dit à Léa, je reviens, et descend dans la rue. Il fait gris. Hier, il a plu. Le premier jour de pluie depuis le début du confinement. Antoine n'a toujours pas réussi à décider si ce printemps était un allié ou un ennemi. Dans son appartement, il se dépêche et il n'a pas envie de s'attarder comme s'il avait peur d'avoir envie de rester. Il attrape le coffret et reprend le chemin de chez Léa. Quand il arrive, il remarque un homme en face de l'immeuble, un homme qui est juste là, debout et qui fume. Ça se remarque en ce moment, les gens immobiles dans la rue. L'homme le regarde et Antoine se dépêche de glisser la clé dans la serrure et d'entrer. Quand il arrive dans l'appartement, il va voir à la fenêtre. L'homme est toujours là. Il lève les yeux dans sa direction. Antoine se dissimule derrière le rideau. Léa ne pleure plus, mais elle boit du café en faisant une réussite sur son ordinateur. Sans un mot, Antoine met un DVD du coffret dans le lecteur et actionne l'avance rapide. Il s'arrête sur le moment où Eric Idle crucifié entonne « Always look on the bright side of life ». Il se dit que la vie de Brian est son film préféré. Lundi 20 avril, 10h. Léa regarde Antoine qui dort encore. La nuit a été belle, ils ont regardé tout le coffret jusqu'à 4 heures passées. C'est la première fois qu'ils riaient ensemble. Elle a encore envie de pleurer, mais cette fois c'est différent. Ça n'est pas du chagrin, c'est de la gratitude. Elle ne sait pas envers qui ou quoi, mais cet homme-là dans son lit ce matin ressemble à un miracle. Antoine rêve qu'il répare des ambulances. Dehors, sur le trottoir d'en face, l'homme n'a pas bougé. Il regarde vers l'immeuble et se rallume une cigarette.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 35e jour. Qui est cet homme étrange qui fume sur le trottoir, immobile comme un vaurien ? Qu'est-ce qui justifie qu'il s'adonne à l'extérieur à une activité non essentielle ? Il n'est pas du quartier, ça se sent. Dans notre quartier, on n'est pas inactif quand on fume. Dans notre quartier, on n'a pas cette drôle de dégaine d'épouvantail. Encore un ivrogne, sans doute. Un irresponsable, en tout cas. Pourquoi cet homme n'est-il pas en mouvement comme doivent l'être les honnêtes gens ? Pourquoi porte-t-il son masque sous le menton ? N'a-t-il pas lu qu'il était dangereux de le nouer ainsi ? Le sait-il possiblement infecté ? Le réutilise-t-il sans le laver ? Le touche-t-il avec des mains sales ? Sait-il frictionner les pouces et la pulpe des doigts durant 2 minutes avec du gel hydroalcoolique ou du savon ? Vu sa tête, il paraît évident que la réponse à ces questions est non. Que c'est un assassin. Que le 13 mars, il faisait encore certainement la fête avec des amis et que depuis, il n'a probablement pas arrêté. Oui, c'est sûr, ça se voit. Cet homme qui fume avec un drôle d'air s'assied de tout son poids sur les règles de distanciation sociale. Car il est corpulent, qui plus est, probablement diabétique. Le profil type de celui qui sera tout surpris d'être intubé dans 15 jours. Et qui n'applaudit pas à sa fenêtre à 20h. Ce salaud sans conscience politique, cet égoïste sans conscience des autres, cet individu nous a tout l'air d'être un homme qui n'est pas ému par l'abnégation des soignants et qui ne dit pas merci, pouce en l'air, à la caissière. Un type qui fait ses courses sans gants, en ne se souciant comme d'une guigne des miasmes qu'il dissémine sur les boîtes de conserve, qui n'achète pas des biens de première nécessité, mais du coca et 1000 sucreries atroces, et qui après va s'étonner ? Il est clair que ce sinistre personnage colle le client précédent à la caisse, qu'il tousse dans sa main et renifle dans sa manche. Qu'il pique tous les rouleaux de PQ et les paquets de pâtes et la levure et la farine et le détergent vaisselle et l'eau de Javel sans en laisser aux autres, ce monstre d'individualisme. L'autre jour, nous avons voulu faire un gâteau et il ne restait plus rien. Ce mec, c'est typiquement le genre de gars à prendre le soleil, à faller dans les parcs, à y aller en voiture, à esquiver les impôts, à faire la queue devant Brico, à ne pas se suppléer en vitamine D, à vider son cubi au lieu de faire la classe à ses 10 gosses, un gros baraqui, un être répugnant. Après lui, le déluge, il n'en a que pour sa pomme. Cet homme qui fume est à l'évidence un danger public. Un complice du Covid, un collabo, un relais actif de la pandémie, un pangolin humain, la raison pour laquelle nous sommes, nous, gentils moutons, assigné à résidence et privé de liberté. À quoi sert-il d'être probe et vertueux quand on voit de quoi sont capables les voyous de son espèce ? À rien, puisque le président américain vient d'épingler la Belgique comme le pays comptant le plus de morts par habitant. C'est honteux, intolérable et révoltant. Tout ce qu'on souhaite à ce fraudeur en bas sur le trottoir, c'est qu'il l'attrape. Qu'il crache de la lave en fusion en se lamentant sur son sort. C'est tout ce qu'il mériterait, ces tordures. Là, au moins, il y aurait un semblant de justice. Il faudrait appeler la police. Ah bah tiens, la voilà. Fini de rire. Une belle patrouille dans une rutilante auto qui va le mettre au fer, ce scélérat, à l'isolement. Ça valait bien la peine.